Encore à venir à l'émission, ce soir aux amateurs de sport, notre invité Francis Bouillon qui va nous parler de son implication avec des organismes qui aident les itinérants à Montréal, de même qu'à Québec. Danny Dubé va revenir sur le match que le Canadien a disputé hier, victoire contre les Sénateurs. Mais d'abord, place à la chronique Sport Business avec notre ami Ray Lalonde. Bonsoir Ray.
Salut Mario.
Ray, on va parler de la valeur des équipes dans la Ligue nationale de hockey. Hier, on a fait l'exercice, c'est-à-dire la semaine dernière, on a fait l'exercice avec les clubs de la NFL. C'est Forbes qui publie. Je remarque qu'il n'y a pas grand changement dans la hiérarchie. C'est juste les chiffres à côté qui changent.
Ouais, mais Mario, en plus, qui est étonnant, c'est que les cinq premiers sont cinq équipes Original Six. Rangers, Toronto, Canadiens, Blackhawks, Bruins. Le sixième est les Kings, le septième les Flyers, puis le huitième les Red Wings. Fait que six des huit premiers sont les anciennes équipes originales. Ce qui te parle beaucoup du leg, de l'historique, de la marque, du chandail, de la valeur des clubs et toute cette tradition d'excellence de ces équipes-là, ça vaut encore beaucoup. Les Rangers dominent une valeur de 1,65 milliards de dollars US dans un empire mené par James Dolan, qui est le grand patron des Rangers, des Knicks et du Madison Square Garden, qui aujourd'hui, tout ça, ça vaut 6,2 milliards de dollars US. Alors, c'est beaucoup d'argent, Mario. Les Rangers, c'est normal qu'ils soient les premiers. C'est le marché de New York. Même s'ils gagnent pas, ils demeurent excessivement bien valorisés.
Je suis content que tu soulignes le fait que même s'ils gagnent pas, parce que dans le fond, donc, les deux concessions en Amérique du Nord de la Ligue nationale de hockey qui valent le plus cher sont deux équipes qui gagnent très rarement.
Ouais.
Les Leafs ont gagné une Coupe Stanley en 67,
ouais,
et les Rangers en 94, puis avant ça, il faut remonter, je pense, les années
40-50.
1940. Bon, ça veut dire que gagner, ça n'a rien à voir avec ta valeur, finalement.
Non parce que, Mario,
c'est important de comprendre ça. Tu sais, quand on dit que c'est de la business de vendre de l'espoir, donc, les organisations qui réussissent à bien vendre de l'espoir, même s'ils n'ont pas de club, là, ils ont des meilleurs clubs, le Toronto a une meilleure équipe, mais ils réussissent à faire des affaires pareilles et être très, très rentables.
C'est un très bon point, Mario, parce que oui, c'est important de gagner. Oui, c'est important d'avoir des joueurs vedettes. Oui, c'est important d'avoir des raisons de croire dans ton équipe locale et de donner de l'espoir aux partisans. Mais à la fin, il y a 30 équipes, 31 dans la Ligue nationale de hockey, qui se battent pour la Coupe Stanley. Il y en a juste une qui sort gagnant à la fin. Les autres sont pas tous des perdants pour autant, là. C'est juste que c'est très difficile de gagner. On réalise pas à quel point c'est dur de gagner un championnat. Et je suis obligé de repenser aux Raptors qui ont célébré Kawhi Leonard hier soir, qui ont gagné un premier championnat. Mais ça fait 25 ans qu'ils sont dans la NBA. Ils ont toujours été pas pire compétitifs, Mario. Mais ils ont jamais été proches de gagner avant d'acquérir un joueur comme Kawhi Leonard.
Mm-hmm.
Alors, quand on pense aux Rangers, je reviens dans le hockey, qui valent plus que quiconque, et l'empire de Dolan s'est très, très valorisé. Les Maple Leafs ont un empire aussi. Maple Leaf Sports Entertainment, ça inclut les Raptors, ça inclut le Scotiabank Arena, ça inclut le Toronto FC, ça inclut les Argonauts. Ça vaut une tonne d'argent aussi. Mais tu sais, les Canadiens sont troisièmes. Puis les Canadiens qui ont été vendus de Gillette à la famille Molson pour 580 millions de dollars en 2008.
Valent le double.
C'était la plus grosse transaction jamais effectuée dans l'histoire du hockey, Mario. Aujourd'hui, 1,34 milliards de dollars US. Avec des profits de 106 millions de dollars US. Pas des revenus, là. Des profits. Parce que les revenus des Canadiens, c'est 243 millions de dollars. Les revenus des Rangers, c'est 270 millions. Je t'ai-tu mis assez de millions devant tes yeux, Mario, pour voir?
C'est quoi le danger qui guette les organisations qui font de l'argent, même s'ils gagnent pas?
Ben, écoute, faut jamais que tu
perdes. Est-ce qu'il y a un danger?
Il y a un danger certain. D'ailleurs, un danger pour les Canadiens. Je te le répète assez souvent que moi, je trouve.
T'as les poches pleines, puis.
Ouais, ben, moi, je trouve personnellement, ça c'est mon opinion, que les Canadiens ont tendance à être distraits avec toutes sortes d'investissements pour diversifier l'organisation. Mais pendant ce temps-là, leur équipe de hockey a de la peine à atteindre les séries éliminatoires. C'est pas une critique pour la saison actuelle, là. Je parle en général, là. Mettons que ça a pas été très bien.
Mais la dernière séquence, depuis qu'il a pesé sur reset, la transition se poursuit, disons.
Ouais, se poursuit. Bon. Ça m'amène à parler des Rangers. Ça m'amène à te parler de la lettre qu'ils ont écrite le 8 février 2018 à leurs partisans. Ça venait de Glenn Sather.
Il y en a plusieurs qui auraient aimé que le Canadien agisse ainsi. Et en relisant la lettre, qu'est-ce que ça te rappelle comme souvenir? Parce que ça a été une bonne décision des Rangers, Ray.
Ben, l'interprétation générale, c'était que c'est une lettre pour dire que le club va reconstruire et qu'on va avoir besoin d'un peu de patience. Mais quand tu relis la lettre, on parle plus de remodeler l'équipe, de la reformuler, puis de juste se débarrasser de quelques visages pour en accueillir quelques autres. On parle pas d'une cure de rajeunissement. Fait que c'est là l'interprétation du mot reconstruction versus reset, entre guillemets. Tu sais, dans la business du sport, tu peux pas vraiment te permettre des reconstructions puis des plans de 5 ans, 7 ans, 8 ans. Ça marche pas comme ça aujourd'hui.
Surtout dans des marchés où les revenus sont tellement considérables, il faut les maintenir, j'imagine.
Et t'as pas d'excuses, ben oui. Moralement, Mario, tu collectes, tu charges des prix élevés, tu fais des profits. Et en plus, un club comme les Canadiens, ça en garde toujours 7-8 millions jusqu'au plafond qu'ils n'ont pas dépensé. C'est pas la première fois. Fait qu'ils vont même pas au maximum de leurs ressources pour gagner. Et pendant ce temps-là, pardon, il y a énormément de profits qui sont engagés par l'équipe. Bon, je reviens à ça pour le hockey, pour parler en général. Il y a quand même 6 équipes qui perdent de l'argent, Mario. Ça, c'est quand même pas inquiétant, mais il faut être sensible au fait que t'as des équipes comme Arizona qui perdent 20 millions, Floride en perdent 15. T'as aussi une moyenne très élevée cette année de 667 millions pour les 31 équipes. La MLS, en contrepartie, a une moyenne de 313 millions. Mais pourtant, les équipes les plus majorées en MLS, comme Atlanta United, ont atteint 500 millions de valeur. Et pourtant, tu as 10 équipes de la Ligue nationale de hockey, Mario,
qui ont pas
qui valent moins que 500 millions.
Ouais.
Fait que moi, ce que ça me dit, c'est que la MLS, on va en parler tout à l'heure pour une seconde, la MLS, ça va vite, l'accélération, la croissance, l'évolution de l'expansion. Et le hockey, c'est plus traditionnel, c'est plus lent. Mais il y a quand même une dizaine d'équipes qui valent moins de 500 millions de dollars. Et dans une business où on vend une franchise d'expansion à Vegas, à 500 millions, et à Seattle...
À 750.
À 650. Exact. Ah. Alors, puis la prochaine, probablement à 750. Ouais. Mario, c'est encore des clubs qui sont dans les bas-fonds, puis tu peux avoir un club de la Ligue nationale pour 300 millions. Alors, tu sais, il y a beaucoup de chiffres puis beaucoup d'argent là-dedans, mais à la fin, il faut regarder un peu. La valeur du hockey est haute, ça se porte bien, ça augmente d'année en année... Puis les Canadiens, les Leafs et les Rangers sont excessivement riches.
Allons-y tout de suite avec la MLS. Il y a le marché de Charlotte en Caroline du Nord. On disait de cette ville-là, il y a 20-25 ans, que c'était la ville qui connaissait le plus haut taux de croissance en Amérique du Nord. Je ne sais pas actuellement comment se porte la ville. On en dit beaucoup de bien, mais c'est la ville qui pourrait hériter de la 30e équipe de la MLS, Charlotte, prochainement.
Ouais. Ben, tu sais, c'est une petite ville par rapport à un marché métropolitain comme Montréal ou Toronto. Disons les vraies choses. Mais cependant, Mario, il y a une équipe de la NBA. Les Hornets, puis une équipe de la NFL, les Panthers. Et c'est une ville bien cotée au niveau de la qualité de vie. Et ce qui est sorti cette semaine, c'est que la ville de Charlotte se prépare à tenter de devenir in extremis la 30e équipe de la MLS. Parce que là, ils sont rendus à 29, les deux dernières étant Saint-Louis et Sacramento. Ça part pas avant 2021-2022, mais pour la 30e, Charlotte est en tête. Et ce qu'ils vont faire, c'est que la ville va accorder déjà 110 millions de dollars US pour préparer l'arrivée d'une équipe. C'est pas dans le stade, c'est pas dans l'équipe. Il va quand même avoir un investisseur qui va arriver payer son frais d'expansion.
Donc, une ville et un État qui sont prêts à engager des fonds publics pour amener du sport professionnel en Caroline du
Nord? Tout à fait. Et ça, ces fonds publics-là, c'est pas pour le stade, c'est simplement pour la préparation du marché, la candidature, tout ce qui est nécessaire pour bien positionner la ville de Charlotte.
Ils veulent.
Et pourquoi c'est pertinent pour nous? C'est parce que Charlotte est aussi une ville intéressée à une équipe de baseball majeur. Et baseball majeur égale compétiteur pour un club de Montréal. Parce que c'est pas garanti que Montréal va avoir un club d'expansion ou un club relocalisé ou un club partagé. Ce qui est clair, c'est que tu as d'autres villes aux États-Unis, Portland et Charlotte, entre autres, et Mexico City, un gros marché d'une trentaine de millions d'habitants, qui sont encore dans la course et dans la mire de Rob Manfred pour le baseball majeur.
Et parlant de baseball majeur, enchaînons avec ça les signatures, la valse des dizaines, des centaines de millions à démarrer. C'est un exercice annuel.
Oui, ça, je vais le faire vite, là, mais il y a eu 3 signatures cette semaine qui valaient 814 millions de dollars. 3 signatures, 3 joueurs. Les Yankees signent Garrett Cole. 9 ans, 324 millions, Mario, une moyenne de 36 millions. C'est le plus gros contrat en moyenne par année de l'histoire du baseball. Et les gens disent, comment ça se fait? Il y a moins de cotes d'écoute, il y a moins d'assistance, les gradins sont vides. Comment qu'ils font le baseball pour se payer ces joueurs-là? Moi, je te disais pourquoi. Les Yankees, là, ça coule à flot l'argent. Ils se disent tout simplement, si on a Garrett Cole, puis on a 9 ans, puis ils nous livrent une série mondiale, on va en avoir eu notre argent. C'est juste un salaire d'un joueur. Pendant ce temps-là, les Nationals ont re-signé Steven Strasburg, qui était un atout important pour la Série mondiale cette année. 7 ans, 245 millions. Puis hier, Anthony Rendon signe avec les Angels pour 7 ans, 245 millions. Mario, c'est des contrats astronomiques si tôt en décembre, beaucoup plus tôt que l'an dernier, pareille date, où on n'avait pas encore accordé des gros contrats de joueurs.
Ça demeure insensé. Tout le monde se dit ça en écoutant ça, mais qu'est-ce que tu veux? On regarde parfois le spectacle pareil, on regarde le spectacle quand même, on est diverti. Mais sais-tu à qui je pense? Je pense que tu as émis un tweet cette semaine à son sujet. Scott Boras, qui est probablement l'agent le plus influent dans le monde du baseball, il vaut 2,5 milliards. C'est un agent de joueur. Ouais. Tu sais qu'un agent vale 2,5, ça te donne une idée comment ça n'a pas d'allure.
Mais juste cette semaine pour lui, une bonne semaine.
Ouais.
814 millions de contrats. Mais rajoute ça à son écurie complète de joueurs, Mario. Ils doivent gérer des contrats qui totalisent des milliards et des milliards.
Ah oui, ah
et
oui.
Donc, sa valeur à lui, parce qu'il en retire un pourcentage. C'est pas 10 %, mais c'est entre 5 et 10 %. Ça fait énormément de commissions, mais c'est lui qui fait bouger l'aiguille. C'est pour ça que les joueurs signent avec lui pour avoir le plus gros contrat possible.
Quelques petites vites. Parle-moi du trophée Heisman et surtout des candidats au trophée.
Ouais, ben écoute, le plus gros candidat, c'est Joe Burrow, le carrière de LSU. Ils sont classés numéro 1 au pays. Puis la raison que je vais en parler, c'est parce que lui, Joe Burrow, c'est un gars qui va avoir une énorme différence. Il va apporter vraiment un impact important pour une équipe de la NFL dès l'an prochain. Fait que quand vous parlez de jeunes corps arrière dans la NFL, puis on veut savoir qui va remplacer un jour Tom Brady puis Aaron Rodgers.
Je pense qu'il va être le tout premier choix.
Joe Burrow, ouais, absolument. Puis il va gagner le trophée Heisman parce que ça vaut de l'or un corps arrière comme lui. C'est un vrai champion. Il y a une forte probabilité que son équipe gagne le championnat national. C'est un grand joueur très athlétique. Et il joue pour LSU, une université qu'on connaît moins ici, Louisiana State University. Surveillez Joe Burrow gagner le trophée Heisman samedi soir.
Les Patriots encore pris en flagrant délit. Honnêtement, eux autres, c'est comme ils veulent pas apprendre là.
T'sais, au même moment qu'on parle de baseball, puis je regarde encore le dossier des Astros de Houston qui ont été
le vol des signaux.
Ouais, ils ont été coincés là. C'est pas encore prouvé. Le baseball majeur enquête. Mais là, les Patriots, ce dimanche dernier, là, ce qu'ils ont fait là, moi je trouve ça inacceptable. Envoyer une équipe pour faire un petit documentaire sur le personnel interne, mais braquer la caméra uniquement sur le banc des Bengals de Cincinnati, une équipe avec une fiche de 1 victoire, 12 défaites, et pour 8 minutes consécutives, garder la caméra sur les entraîneurs des lignes de côté qui transposaient des signaux vers le terrain. Honnêtement, là. Puis là, Bill Belichick ensuite...
Ils donnent pas.
Non, non. Puis Bill Belichick ensuite qui dit, moi, j'ai rien à voir là-dedans, cette équipe-là de production, moi, je connais pas ces gens-là, je leur parle jamais. OK, ben qu'est-ce qu'il faisait là au match Browns-Bengals? Il aurait pas pu faire n'importe quel autre match? Il fallait que ça soit le prochain adversaire des Patriots, puis il fallait qu'il garde la caméra sur le banc. Je vois pas trop de jeunes carriéristes sur le banc des Bengals qui ont rapport avec les Patriots. En tout cas, la NFL enquête, on a entendu des commentaires de Roger Goodell aujourd'hui. Ça sent mauvais comme d'habitude. Il y a eu Spygate en 2007. T'as eu Deflategate en 2014. T'as eu les frasques de Robert Kraft comme propriétaire l'an passé.
Si tu triches, fais-toi pas pogner, mais ils se font tout le temps prendre.
Ouais, mais moi, je pense honnêtement qu'ils trichent bien plus qu'on pense parce que les Patriots sont bons dans tout ce qu'ils font. Les Patriots sont excellents sur le terrain. Belichick, c'est tout un coach. Tom Brady, c'est le plus grand carrière. Mais à la fin, Mario, là, ces gars-là vont à la limite permise, puis parfois pas permise. Ouais. Puis je pense que derrière ça, dans le placard là, des Patriots, se cachent bien d'autres illégalités.
Mais c'est-tu quoi, eux autres, ils se font prendre? Mais l'histoire des ballons dégonflés, j'ai entendu, je sais pas combien de joueurs dans la Ligue disent que toutes les équipes faisaient ça.
Ouais.
Toutes les
sauf
équipes ont fait ça, sauf l'adversaire des Patriots cette année-là.
Ouais, mais l'occasion où ils l'ont fait, Mario, c'était Colts-Patriots en finale de conférence américaine.
Non, mais c'est une pratique, et là, ils se sont fait prendre, tu sais, parce qu'il y a un gars qui a intercepté un ballon, tout ça, mais semble-t-il que. Mais je veux pas les abrier parce que. C'était mes patchs qu'à tout récemment encore, mais...
T'es sur le bandwagon des Patriots.
Quand je t'entends en parler comme ça, c'était un peu plus tiède. Ben,
exactement.
Voilà, mon chéri. Merci beaucoup.
Merci à toi, Mario. Bonne soirée.
Une excellente soirée. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Et au retour, Danny Dubé commente notamment la première victoire de Caden Primeau en carrière avec le Canadien.